2050.
Tu penses que ce serait bien, toi?
Hashtag 2050 le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes et en moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. Hashtag 2050, c'est parti.
Bonjour Laurent.
Bonjour Rebecca.
Tu es un père, oui. Père de deux enfants, habitant de la métropole Rouen-Normandie, passionné de la transition, des questions de transition.
Des transitions.
Des transitions. Alors c'est quoi les transitions?
La première, la plus importante, c'est notre propre transition, notre propre chemin. C'est plutôt vers un développement qualitatif. Dans l'ordre de l'être qui m'intéresse et que j'essaye de présenter devant moi avec ce que je suis et puis ce que je voudrais être. Mm-hmm. C'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà...
Et puis ensuite, à partir du moment où on a fait ce travail-là, où on fait ce travail-là au quotidien, eh bien, c'est d'accomplir ce chemin avec les autres, ce qui nous permet en retour de bénéficier de leur sensibilité, de leur singularité, de s'enrichir. Mm-hmm. Voilà, un chemin de vie, mais ça commence par soi, la transition.
Oui, une transition où on embarque dans l'aventure son écosystème humain, on pourrait dire ça comme ça.
Ouais.
Donc une transition personnelle, mais aussi une transition énergétique, c'est un thème sur lequel tu travailles beaucoup.
Oui. Je dirige les services d'une petite commune dans l'agglo et ayant été saisi par l'urgence des questions de dérèglement climatique, mais aussi de pic énergétique, j'ai proposé à ma commune, il y a presque 10 ans maintenant, de creuser un peu ces questions-là au sein de la commune et sur le territoire. Et puis, il se trouve que les élus, le maire aujourd'hui, et puis une partie de l'équipe qui m'accompagne, qui nous accompagne dans cette aventure, a pris conscience de notre responsabilité. Donc chacun décide de prendre sa part. Mm-hmm. Donc on essaye de pousser le bouchon le plus loin possible pour avancer.
Le pousser le plus loin vers 2050.
Vers l'autonomie, vers la résilience, vers le partage, une nouvelle manière de penser, de concevoir la production, la consommation énergétique qui est au cœur de notre civilisation, de notre société.
Alors la question de l'énergie, c'est donc une question que tu connais bien, pourtant c'est pas sur cette question-là qu'on va concentrer notre conversation. Pour se projeter vers cet horizon de 2050, tu as eu envie de parler de transmission des savoirs, d'éducation de l'école, tout simplement. Pourquoi ? Quel est le constat que tu portes sur l'école aujourd'hui ?
Alors c'est un lien quand même avec l'énergie, parce que j'ai souvenir de la phrase de Pierre Rabhi qui s'intéresse à la terre qu'on va laisser à nos enfants, mais s'intéresse tout autant aux enfants qu'on va laisser à notre terre. Donc il faut marcher sur ses deux jambes. Alors mon rêve d'école, ou de lieu, ou de temps, d'espace de transmission, il est évidemment en décalage et en rupture avec l'école que j'ai connue, moi.
Mmh. Et celle que tu connais pour tes enfants.
Et puis celle que je connais pour mes enfants, même si mes enfants n'étant pas dans la sphère de l'enseignement public, j'ai déjà une autre manière de voir les choses, et j'essaie d'être acteur également, autant que possible. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on n'y arrivera à pas grand-chose dans ces transitions, à les conduire, à les porter, sans revoir et mettre les choses à plat sur l'institution, l'école, et puis l'acte de transmettre. Quand bien même on a fait des progrès considérables, si on veut être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous, des fameuses ruptures civilisationnelle, puisqu'on aura des mutations qui peuvent se trouver complexes pour les sociétés à vivre, questions de survie se posent, eh bien on aura à développer de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences qui nous permettront de résister d'abord, et puis d'expérimenter des voies nouvelles, un peu moins toxiques, pour nous-mêmes d'abord, et pour la vie en général.
Ouais. Alors cette, justement, tu as parlé de résistance, d'expérimentation, le troisième mot qui t'est cher, c'est celui de vision, les trois lettres REV, rêve. C'est ce rêve que tu veux partager avec nous pour 2050. Alors, justement, en termes d'éducation, qu'est-ce que ça veut dire résister, expérimenter, avoir une vision ? Est-ce que tu projettes vers ce 2050 ?
La vision, c'est difficile de d'écrire les choses quand on veut que cette écriture soit partagée, quand on veut co-construire et co-écrire. Il faut être ouvert et accueillant par rapport aux autres manières de penser. Mais j'ai le sentiment que je partage avec nombre de nos contemporains des valeurs et des convictions qui sont celles de la fraternité, de l'empathie, de la bienveillance, d'une envie de prendre les choses en main. Et à partir de là, on pourra écrire cette histoire. Donc ma vision de la résistance, c'est déjà de résister à l'effet de sidération, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose sur tous les sujets, et en particulier sur les sujets de la transmission et de l'accès au savoir et de leur production. L'expérimentation, il faut qu'on se redonne un droit à expérimenter, à arrêter quand ça ne marche pas.
Ouais, et donc le droit à l'échec aussi.
Le droit à l'échec. Et l'école devra apprendre à avoir un autre rapport et à automatiser l'échec. Et puis cette vision, je crois qu'il faut que chacun puisse exprimer un certain nombre de choses. Or, aujourd'hui, peu on voit au chapitre et les citoyens ne s'emparent pas de ces sujets, alors que c'est un sujet fondamental. Et il y a une sorte de tension et de contradiction, c'est que je pense que les gens, si on leur pose la question, êtes-vous d'accord avec l'école d'aujourd'hui, ils vont tous vous dire que non, que leurs enfants ne sont pas super motivés, qu'il y a un risque d'absence de désir et de plaisir d'apprendre. Et au final, ce sont les premiers à s'exprimer de manière négative quand il n'y a pas assez de devoirs ou que les notes...
Si on veut supprimer les notes,
les examens, etc. Ils vont être les premiers à aller au front pour s'y opposer. Donc là, tout ça me paraît nécessaire de changer de rapport complet, d'inverser un peu les choses. Mm-hmm. Je m'intéresse plutôt à l'idée d'une école inversée, d'ailleurs, où l'école, c'est pas... où on n'apprend pas non plus à l'école, mais on apprend tout le temps, une sorte d'éducation permanente, d'école tout au long de la vie. Et ce qui se passe depuis l'invention de l'école tend à montrer que les sociétés sont riches qu'à partir du moment où elles investissent massivement dans ces questions de transmission d'éducation, y compris leur PIB augmente au fur et à mesure de leur investissement, c'est un fait. Et on y passe de plus en plus de temps, et on y passera de plus en plus de temps. On passe deux fois plus de temps à l'école aujourd'hui dans les pays occidentaux qu'on en passait au début du siècle dernier. On a multiplié par 5 la population étudiante post-bac. Et je pense que tout ça ne va faire que s'amplifier à l'avenir. Donc cette école de demain, c'est finalement la vie qui donnera l'occasion à tout moment d'apprendre, de comprendre et d'interagir avec les autres. Je pense que la place de l'école demain sera différente dans notre rapport à l'autre. Ce ne sera plus le rapport frontal qu'on a aujourd'hui, mais un rapport de pair à pair où les camarades de classe, quand bien même la classe appartient à un vocable très marqué au niveau de l'histoire industrielle. Mais comme tous les points de repère qu'on a, les examens, les notes, tout ça renvoie à cette société pyramidale, hiérarchique. Et on sait que demain, la société sera horizontale, latérale. Donc l'école sera forcément sur un modèle identique. Mais ça veut dire de casser toutes les positions aujourd'hui qui sont très hiérarchisées.
En même temps, on sent une tension entre aujourd'hui, en tout cas... ce début de siècle, entre la revendication de la nécessité d'un socle commun de savoir Et puis la nécessité de changer l'école pour que les apprentissages soient plus partagés, plus collectifs, qu'on soit dans le co-apprentissage. Et donc tu imagines qu'en 2050, lorsque un enfant rentrera à l'école, à quoi ressemblera sa journée, son année ?
Cette tension-là, elle est aujourd'hui présente parce qu'on vit une crise qui est multiple, une crise de sens d'abord. Et forcément qu'il y a des logiques régressives qui s'expriment. On voit aujourd'hui un certain nombre de positionnements durs sur la question de retour de l'autorité, sur la question de la place de l'orthographe, etc. Ça, c'est des sujets de tout temps qu'ont existé, y compris au temps d'Aristote, qui voyait les générations arriver beaucoup plus bêtes que les autres. Je pense que peut-être pour la première fois, on est une génération aujourd'hui qui apprend plus de ses enfants, contrairement aux autres générations. Ça a changé. Ils nous apprennent notamment à dompter les nouveaux médias ce rapport au savoir qui tient dans un smartphone aujourd'hui, cet accès à la multitude va nous permettre de gagner de sauter quelques marches, de gagner un peu de temps. Ouais. Alors cette école, cette journée. Je ne sais pas s'il faudra l'envisager en la comptabilisant comme cela. Il y aura un autre rapport et on prendra davantage le temps, puisque le temps ne sera plus réparti en journées, en heures de cours. L'heure de cours, elle a été décidée comme norme par des moines au Moyen-Âge.
D'accord.
Donc c'est totalement obsolète. Alors qu'on sait que le temps d'attention, aujourd'hui, il ne dépasse pas la vingtaine ou la trentaine de minutes. Ça vaut pour les enfants comme pour les adultes. Je crois que l'école sera plus ce sanctuaire, et ce sera un lieu d'échange, d'interaction principalement, où les professeurs seront plus des professeurs, c'est-à-dire ceux qui dispensent un savoir, puisqu'ils n'en sont plus les seuls dépositaires aujourd'hui. La télévision a déjà bousculé les choses. Les pères aujourd'hui on apprend de plus en plus entre nous. Et l'école sera ce lieu de mise en pratique de coopération, d'apprentissage de la collaboration. Et je pense que l'accès aux savoirs les plus théoriques sera réservé à des temps plus privés ou en petits groupes, dans des sphères qui seront pas forcément publiques, et nous serons assistés. Alors je ne sais pas si l'appareil sera visible, comme il l'est aujourd'hui avec le smartphone, qui est omniprésent, dans nos poches, dans nos mains. Où que nous soyons, mais peut-être demain sera-t-il invisible et nous assistera de manière pour un suivi individualisé. Donc le rapport au savoir et le rythme, ce sera un jeu de dialogue avec cette machine, ces algorithmes qui demain nous assisteront, cette intelligence artificielle qu'il faudra mettre au service de la pensée humaine et de son développement. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de maîtrise de ce processus-là. D'appropriation, on n'est pas encore à se réapproprier, mais d'appropriation de ces outils-là au service de la connaissance et de la production et de l'échange des savoirs. Wikipédia est déjà l'exemple type de l'accès de cette manière de cette ère du savoir et de coproduction du savoir, de l'échange aussi, de contradictions, de discussion, pour reprendre des termes anciens. Et ça, ça va changer totalement la donne. Donc une fois qu'on aura cet assistant personnel permanent qui nous parlera, qui nous contredira, qui nous orientera, mais où nous resterons maîtres du rythme et de l'échange, eh bien il nous restera à inventer avec les autres la mise en œuvre et l'invention. Et donc cette école-là sera plutôt ouverte sur... des apprentissages collectifs.
Mmh. Alors, tu parlais aussi de l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie. Donc ce lieu école
n'existera plus.
Voilà, il n'existera plus en tant que tel, et même adulte, on pourra avoir accès à ces espaces, dématérialisés ou pas.
Le rapport au temps va être considérablement impacté par les disruptions technologiques, la robotisation et l'intelligence artificielle qui vont nous libérer un temps considérable. les derniers terrains à défricher, ça va être le développement des savoirs, de la manière d'être, la qualité d'être au monde, d'en apprendre sur nous. Et nous avons des terrains infinis à explorer. Il se trouve que la connaissance et le savoir, c'est quand même extraordinaire de penser que plus on en sait, moins on en sait. Ou plus on prend conscience de notre ignorance. Après, contre ce que j'appellerais une forme de paresse, contre le divertissement et la société du spectacle, qui fera rien pour nous libérer ce temps précieux pour apprendre et comprendre. Donc il faudra aussi être capable de rendre cette quête ludique et redonner du plaisir, et du désir. Et là, l'école aujourd'hui a cette mission que de faire aimer l'école. Or, on ne décide pas de désirer. Ça veut dire qu'il faut changer les choses. Alors, ça ne se fait pas dès la maternelle, évidemment. Il y a effectivement l'acquisition d'un certain nombre de compétences de base. Mais dès le plus jeune âge, on pourra aussi ouvrir le spectre des disciplines en arrêtant de les penser, de les enseigner en silo. Je suis pour l'enseignement transdisciplinaire, pluridisciplinaire, sachant que ce qui est plus important, ce n'est pas la somme des connaissances qu'on transmet, mais le rapport et l'expérience au savoir et à cette connaissance. Donc j'imagine bien demain avoir des cours, comme ça se fait aujourd'hui au Danemark, des cours d'empathie, des cours de méditation, de contemplation, des cours de respiration, des cours d'histoire en même temps que des cours de prospective, de futur. Il faudra que pour le changer, le monde, on sache le désirer et l'imaginer. On peut imaginer une place plus importante accordée à la créativité, à l'expression artistique. Tout ça existe en germe aujourd'hui, mais on demande à l'enseignant de trop de choses. Donc il faudra que l'école soit aussi ouverte à des compétences nouvelles et que l'enseignant accepte cette idée d'une école ouverte sur la société et la vie. J'aime bien l'idée d'apprentissage de la philosophie dès le plus jeune âge aussi. Ça se fait aujourd'hui dès l'école maternelle. Et voilà, l'idée c'est de préparer à devenir des adultes conscients. Conscients de leurs responsabilités, de leurs qualités, ouverts et disponibles à la différence, plus tolérants, plus fraternels. Et je pense que l'école est capable de produire ses citoyens de demain, à condition qu'on accepte nous, les adultes, nous les parents, de faire confiance à la société et aux autres.
Alors ce rêve, je t'avoue, je le trouve assez alléchant. On n'empêche que 2050, c'est loin, mais pas tant que ça. Non. C'est 30 ans, donc il y a une transition à inventer pour passer d'un modèle d'éducation à un autre. Et je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué, la présence de la technologie pour nous accompagner, l'intelligence artificielle. Tu as parlé d'algorithmes aussi. En ce moment, il y a tout un débat autour des algorithmes utilisés par ce qu'on appelle les GAFA, Google, Facebook, Twitter. Et donc, ils font un tri pour nous, des algorithmes dont les formules sont uniquement maîtrisées par quelques-uns. Ça veut dire que cet horizon 2050 que tu imagines...
Il faudra qu'on maîtrise...
On reprend la main.
On reprenne la main sur le code, sur la création de ces algorithmes. Il existe déjà des organisations issues de la société civile et puis la communauté des défenseurs du libre, des hackers qui militent pour un partage et une maîtrise, une appropriation citoyenne de cette intelligence qui est extrêmement puissante. C'est l'apprentissage du code à l'école, par exemple, savoir coder.
Aujourd'hui, ça veut dire que tu appelles tu imagines une société où chacun se sent responsable, citoyen responsable individuellement, mais aussi collectivement du modèle de société. Chacun en serait le garant, que ce soit pour une éducation partagée, des outils numériques partagés.
Le processus d'individuation ne va pas s'arrêter. On sort de quelques périodes extrêmement violentes. Le XXe siècle a été un siècle absolument violent, terrible, et on est en train, malgré tout, de nous libérer des utopies totalitaires, des prêt-à-penser, et nous sommes seuls au monde face à notre destin. Et ça, cette prise de conscience-là va forcément nous conduire à être davantage autonomes et responsables. Or, l'école d'aujourd'hui, elle ne rend pas autonome. Elle est un lieu de reproduction, et elle rend hétéronome, c'est-à-dire les gens dépendants des institutions qui les gouvernent. Or, l'accomplissement et réussir dans la vie, c'est d'abord être autonome et responsable.
Donc une école qui apporte l'émancipation.
Mmh. Qui redonne à l'individu la pleine maîtrise de son destin et le pouvoir d'agir sur le monde, sur son environnement. Ce qui n'empêchera pas les accidents, les souffrances et le malheur. Je ne crois pas du tout à ça. Il reste qu'on a essayé l'individualisme à tout craint et que nous nous retrouvons confrontés aujourd'hui aux limites de cet individualisme, les limites au niveau de la biosphère, parce que notre manière de vivre se heurte aux limites des écosystèmes et puis aux limites de notre propre condition humaine. On consomme de plus en plus de produits pour nous évader et pour et la consommation est une manière d'échapper à notre finitude. Or aujourd'hui on nous berce d'illusions et je pense que les masques tomberont d'eux-mêmes sans qu'il y ait de révolte particulière. Il y a une recherche.
Tout à l'heure tu parlais de la société civile. Mmh. Ce changement de paradigme complet, mmh. il sera le fruit de cette société civile qui portera, qui s'organisera, ou ça va être la sphère politique. Alors je ne veux pas non plus être caricaturale, mais en tout cas une décision descendante du politique pour faire changer la société.
Non, il y aura un nouvel espace de dialogue entre la société civile et une sorte de nouveau contrat de compromis, puisqu'on n'arrive à rien sans compromis. Ceux qui auront aucun intérêt à changer et ceux qui auront un intérêt et la certitude qu'il faut changer arriveront à se mettre autour de la table à un moment, puisqu'on ne peut pas contraindre, même si c'est une minorité, la minorité à adopter sa manière de voir les choses. Il faudra trouver de nouveaux compromis. Aujourd'hui, le compromis n'existe plus. On a clairement des remises en cause trop importantes sur les questions d'égalité, sur les questions de partage, qui font qu'il faut bousculer un peu les choses pour qu'on se remette autour de la table et qu'on fasse pression. Donc les politiques, finalement, se saisiront des discours et des pressions de la société civile, et à un moment on arrivera à repenser les choses et à remettre et à imaginer une autre manière de faire. Il faudra reprendre le pouvoir sur un certain nombre de ces sociétés transnationales. Ça me paraît indispensable, sauf à les laisser continuer à prendre autant de place dans nos vies.
Justement, tu as beaucoup parlé de la place des technologies qui sont mises au service d'un projet de société de l'humain. Alors, l'objet que je te soumets, c'est tout simplement un smartphone. Est-ce qu'en 2050, à quoi il servira ce smartphone ? Peut-être encore à passer des coups de fil, je ne sais pas. Est-ce qu'on y passera du temps plutôt pour jouer, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, pour partager ses photos de vacances, de son dernier déjeuner ? À quoi il servira cet outil ?
Je pense que physiquement, il sera plus présent, il sera virtuel, accepterons-nous quelques implants pour nous dispenser, y compris
cette
de son obsolescence
et
de l'obsolescence.
Oui.
Mais il occupera une place déterminante.
y compris dans l'éducation d'ailleurs.
Dans tous les domaines, dans tous les domaines, la gestion de notre temps, de notre vie, de nos vies, toutes nos vies, intimes, philosophiques, y compris ludiques, une manière de d'inventer de nouveaux espaces sensibles et non plus virtuels, clairement. Peut-être qu'on aura d'autres objets, mais il sera une sorte de non pas de surmoi, mais d'à côté de moi, permanent, sorte de bonne conscience, telle qu'on peut se l'imaginer parfois quand on s'imagine à côté de notre propre conscience, bonne ou mauvaise. Il sera notre ami, il faut qu'il le devienne, du moins.
Avec la différence, comme tu disais, que.
Mais il faudra s'en déconnecter aussi.
Seront aussi maîtrisés, connus, que les calculs, les algorithmes, on le disait tout à l'heure, qui viendront nous aider au quotidien, soient.
Il faudra que nous libérer de ceux qui aujourd'hui le vendent. Clairement, il faut que le smartphone devienne citoyen. Et que les requêtes et les sollicitations ne soient pas purement commerciales ou un moyen de... Voilà, effectivement...
De vendre soit un objet ou une pensée. Voilà.
Alors, quand on parle d'économie de la connaissance, il y a une vraie tension et une contradiction qu'il faudra lever d'ici là. C'est que on dit que le marché de l'éducation, et notamment avec ces nouvelles technologies, représente un espace considérable de génération de valeur ajoutée et de profit. Or, dans cette école et ce nouveau rapport au savoir que j'aimerais vivre, parce que j'espère être encore vivant en 2050, il sera forcément libéré de toute contingence commerciale et il doit être libre.
Voilà. Ça sera des plus-values en termes de richesses, mais des richesses immatérielles et non sonnantes et trébuchantes.
On pourra admettre de payer un certain nombre de prestations de services, mais je pense qu'il faut que cet accès-là soit libéré de toute contrainte et puis qu'il y ait une vraie indépendance du sujet. Voilà.
Alors, avant de conclure cette conversation, Laurent, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050. Il y a toujours un temps de silence de quelques secondes à cette question du vœu à formuler.
Mais que ce sujet-là soit le sujet politique pour la société civile, pour les communautés et au niveau international, que ce soit le seul sujet qui vaille la peine d'être porté par chacun, qu'on se ressaisisse de cette question fondamentale, qui est la seule qui nous permettra de savoir compter ce qui compte vraiment et de reprendre les choses en main, puisque nous nous sommes laissés déborder depuis bien trop longtemps. Donc si nous voulons vivre, il va nous falloir apprendre.
Très bien, merci pour ce beau vœu, Laurent.
Merci à toi.
C'est ainsi que s'achève cet épisode de Hashtag 2050, le podcast. On se retrouve évidemment très vite, dès la semaine prochaine, avec une nouvelle rencontre. Et d'ici là, soyons toujours curieux.